l'approche historico-culturelle, l'approche qui a été développée à partir des travaux de Vygotsky et qui s'appuie sur deux thèses centrales. La première, c'est que la genèse de la conscience et du psychisme, le développement de notre psychisme, est de nature sociale parce qu'il se réalise au cours d'activités qu'on mène avec autrui. Tout seul, l'enfant n'apprend pas à parler. Il apprend à parler parce qu'il parle avec d'autres. Il apprend à compter parce qu'il compte avec d'autres. Il apprend à se déplacer dans l'espace parce qu'il le fait avec d'autres. Donc, première thèse, c'est bien parce que je peux faire usage d'un certain nombre d'outils avec autrui que je vais progressivement me les approprier et que c'est ce travail avec autrui qui va me permettre de me développer. Et deuxièmement, cette genèse est doublement sociale puisque ces outils que je suis censé m'approprier sont des outils, sont des résultats d'une construction sociale. Alors je vais reprendre ça un petit peu plus finement. C'est-à-dire que les outils, les instruments, les savoirs, tout ce dont l'élève va devoir s'approprier, existent parce qu'ils sont le résultat d'une construction d'un groupe social, d'un groupe disciplinaire, etc. Donc je le reprends dans le détail. Au cours du développement d'une société, les membres d'un groupe, d'une culture, d'une science, vont à un moment donné dans leur histoire transformer et créer le monde social dans lequel ils vivent. Là-dessus, Vygotsky s'appuie sur les travaux de Marx qui a montré que eh bien, quand l'homme a besoin d'augmenter ou de trouver des solutions pour améliorer, augmenter sa capacité d'action sur son environnement, il va inventer, construire des outils qui vont être des intermédiaires entre lui et le monde et qui vont lui permettre d'augmenter ses capacités. Il va inventer la charrue pour augmenter ses capacités à retourner la terre. Il va inventer le marteau pour augmenter sa force, pour pouvoir agir sur un clou, par exemple. Et ces outils-là, une fois qu'ils sont créés, ils existent. L'enfant qui naît dans le monde naît dans un monde dans lequel il y a ces outils qui sont des traces de l'histoire, du développement, de la culture, de la société dans laquelle il vit. Et quand il va s'approprier ces outils, il va non seulement s'approprier l'usage d'une charrue ou d'un marteau, mais il va s'approprier en même temps toutes les questions que l'homme s'est posées et les réponses qu'il y a apportées. Alors Vygotsky reprend cette thèse et la transfère aux outils symboliques, aux outils sémiotiques, en montrant que l'homme a aussi eu besoin d'inventer des outils pour augmenter sa capacité d'action sur lui-même et sur les autres. Il invente le langage, il invente l'écriture, il invente un système décimal pour pouvoir penser les quantités, il invente des cartes de géographie, il invente un certain nombre d'outils qui vont chaque fois lui permettre d'améliorer ses capacités et son action sur lui-même et sur autrui. Ces capacités sont déposées dans ces outils. Et quand l'enfant, l'élève, va s'approprier ces outils, eh bien, ça va transformer sa façon de penser, ça va lui ouvrir des possibilités de penser qu'il n'avait pas auparavant, et donc ça va lui permettre de se développer psychiquement. Si je prends l'exemple de la carte, je vais prendre la carte de géographie ou du plan de ville, à un moment donné, on peut imaginer que l'être humain a eu besoin de se situer dans son espace, de s'organiser, d'organiser l'espace dans lequel il vivait, et que pour faciliter cette organisation, pour faciliter cette capacité à savoir où il est, à communiquer avec autrui aussi, hein, on se donne rendez-vous à un endroit précis, on se retrouve, ça fonctionne, eh bien il invente un outil, il construit un outil qui représente l'espace qui s'est matérialisé au travers des cartes ou des plans. Eh bien, quand on a à l'école, quand on apprend en géographie à s'approprier l'usage du plan, on apprend une certaine façon de penser l'espace. On a mis le nord en haut, le sud en bas, c'est une convention. On aurait pu imaginer les choses autrement. On aurait pu avoir des cartes rondes. On aurait pu, etc. C'est très difficile d'imaginer ce que ça pourrait être, puisque c'est cet outil-là dont on a appris l'usage qui nous a finalement construit notre façon de penser l'espace. Mais dès le moment où vous vous êtes approprié ce plan, eh bien, vous pensez l'espace, vous vous situez dans l'espace d'une manière différente. Vous avez un outil pour vous penser dans l'espace. Vous n'arrivez peut-être plus à vous rappeler ou à imaginer comment vous penseriez si vous n'aviez pas appris à faire usage des cartes. Il suffit de vous promener dans un pays où les habitants n'ont pas l'usage des cartes et puis de questionner. Vous vous promenez à Marrakech et vous questionnez un habitant pour lui demander votre chemin. Il n'a pas l'usage des cartes, il ne se perd pas, lui. Il sait très bien où aller, il sait très bien où sont les endroits, mais son explication ne vous sert à rien. Parce que son explication est construite sur une représentation de l'espace qui n'est pas la même que nous, la nôtre étant facilitée par l'usage des cartes. Et il en est de même pour tous les outils que l'enfant va devoir s'approprier. Donc, dans cette perspective, les membres d'une culture, d'une société ou d'une discipline construisent des outils. Et dans ces outils est contenu les formes de pensée qui sont la conséquence du développement de l'homme. Et l'appropriation de ces outils eh bien, augmente, transforme les capacités de pensée, les possibilités de pensée de celui qui se les approprie. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, cette appropriation, il ne peut pas le faire seul. Il est obligé de le faire avec quelqu'un qui maîtrise déjà l'usage. Si vous donnez une carte à un enfant sans le guider, sans l'accompagner dans l'usage de cette carte, elle ne va pas lui servir à grand-chose. Il en est de même pour l'écrit, il en est de même pour le calcul. Nous pensons les quantités dans un système décimal. On aurait très bien pu imaginer d'autres systèmes. Rien, on aurait pu travailler en base 6, en base 12, en base 20. Il se trouve que notre société a fait le choix d'organiser le monde des quantités en base 10 et que c'est cet outil-là qui nous permet de penser les quantités. C'est assez pratique parce que ça correspond à un élément physique chez nous. Donc dans cette perspective, apprendre, c'est s'approprier ces outils. Mais vraiment ces outils, pas au sens de compter jusqu'à 30 ou d'être capable d'appliquer la procédure pour pouvoir résoudre une multiplication ou de déchiffrer des symboles pour penser qu'on lit, mais vraiment s'approprier l'usage de l'outil, ce qu'il permet à l'homme de faire que l'homme ne pourrait pas faire s'il n'avait pas l'usage, s'il n'avait pas cet outil. Donc c'est vraiment cette appropriation-là. Et du coup, le développement, c'est la conséquence de cette appropriation. C'est parce que je me suis approprié des outils que j'ai des possibilités de pensée qui sont beaucoup plus larges, qui sont beaucoup plus grandes, des possibles qui m'ouvrent et qui me permettent d'agir sur moi-même, sur ma mémoire, sur mon attention et sur mon imagination. Alors, dans le monde artistique, on retrouve aussi ce type d'outils. D'ailleurs, les premiers travaux de Vygotsky, avant de s'intéresser à l'éducation et à l'enseignement, Vygotsky s'est intéressé d'abord à l'art. À l'art comme discipline qui propose des outils qui nous permettent de penser le sensible, de penser l'émotion. Donc les outils de l'art nous permettent de construire des significations par rapport au monde sensible et par rapport au monde éprouver ou aux émotions qu'on peut rencontrer. On pourrait prendre l'exemple des chansons, de la littérature d'ailleurs, mais peut-être que les chansons c'est encore plus contemporain. Tout être humain va éprouver des sensations, des émotions quand il tombe amoureux. La signification qu'on va apporter à ces émotions va être influencée par les outils artistiques qui nous sont proposés. Et si vous avez baigné pendant toute votre adolescence dans la chanson romantique, il est fort à parier que les significations que vous allez attribuer à ces émotions-là, eh bien, elles vont être influencées. C'est-à-dire que c'est ce cadre de pensée qui va vous permettre de construire une signification à ce qui vous arrive. Si vous baignez dans la chanson violente, dans le texte qui agresse, qui construit une image des relations hommes-femmes qui est beaucoup plus agressive, eh bien, il y a des risques que la signification que vous construisiez à partir de ce que vous ressentiez soit de nature différente. D'où, dans cette perspective, je ne séparerai pas l'enseignement de l'art et l'enseignement par l'art. Je réagis un peu à ce qui a été dit hier, mais je poserai plutôt le fait que c'est l'enseignement de l'art qui devient et qui est l'enseignement par l'art. Enfin, je vais y revenir par rapport à la question technique, mais c'est parce que je m'approprie les outils de l'art que l'art me permet de me développer et de me transformer et m'offre des outils pour penser le sensible et l'émotion. Dans cette perspective, évidemment, tous les élèves ont besoin d'une éducation artistique, au même titre que tous les élèves ont besoin d'une éducation scientifique. Et je réagis à ce qui nous a été dit hier sur le fait qu'on pourrait avoir cette tendance à renforcer l'éducation artistique auprès des milieux défavorisés ou des élèves en difficulté. Et je pense que l'ouverture, la dimension critique, les possibles de la pensée que l'art nous offre, eh bien, tous les élèves en ont besoin. Et dans les événements qui ont un petit peu bousculé la France en ce début d'année, je pense que les élèves favorisés ont aussi besoin d'outils critiques par rapport à ce qui se passe et que c'est pas... on est un peu dans un... Là, c'est un regard extérieur, mais dans un clivage où certains auraient besoin de se développer, de développer des valeurs et un esprit critique, et que d'autres les auraient en soi. Et puis, c'est peut-être autrement que ces élèves expriment leur absence de distance critique, mais les deux en ont besoin. Et dans cette perspective, le développement de l'imagination, je vais y venir, est probablement une piste à explorer.